c'était Anaïs en live.
So talk to me, boy. Just wanna dance, put it real simple.
So talk to me, boy. Éphémère, 25 ans qu'on se la pète.
Bonjour et bienvenue sur FMR, nous sommes le samedi 25 novembre 2006 et que va-t-on vous fourrer dans les oreilles aujourd'hui ?
Ouais, maintenant !
C'est le supplément week-end avec l'actu BD, DVD, TV, baston
et... Suivi de...
Ça c'est du sport, à partir de 13h, le résultat en direct des stades, des vestiaires et de l'infirmerie.
Et ensuite ?
À 15h du mix avec... Mais c'est même pas marqué ! Attends, mince, c'est quoi ce scandale ? César Mafaraï, c'est du reggae. Merci Poupa Christopher, big up à lui. Et ensuite, et franchement, c'est un peu loin les gars, là, vous rendez pas compte. 17h Big Bang, 18h Vie d'Ordure, 19h Happy Hour, 20h30 la Cetero Experience, 21h je vais arriver à bout, 9 Love. Et ceci pendant les 25 ans Radio FMR. J'ai la bonnette qui tombe, c'est une catastrophe. Vite le jingle, vite.
FMR. FMR, la French Independent Radio Libre since 1981.
Et pourquoi tu dis que il te saoule ce jingle? Il est très bien ce jingle.
Bah,
ça fout la patate. Et en plus, c'est très bien pour mettre des vidéos dessus.
Attends, tu veux dire que tu en as fait une version vidéo là?
Ouais. Oui, j'en ai fait une, mais pas là, puisque là on est à la radio, on pourra pas le montrer.
Ah mince, je me disais aussi, c'est pour ça que ça marche pas aussi bien que d'habitude. Ah, on fait de la radio. On est sur la poubelle de radio. Bonjour, c'est le supplément week-end avec une programmation aujourd'hui spéciale Chine.
Avec des Chinois partout.
Que des Chinois. On va commencer par un groupe chinois absolument inconnu qui s'appelle Psycho Michael.
Violence isn't my only option.
It's just what he does best.
Destruction! I love destruction! Destruction! Worked its way from the back of my mind. Imagination that's so unkind. I started young with the neighbor's cat. Yeah, shed just into my baseball bat.
Destruction!
programme spécial Chine tout à l'heure, puisque en fait, donc en ce moment, on va vous expliquer un peu. On fait 25 ans de radio éphémère, voilà, donc il y a eu une petite fête privée avec une mise aux enchères de prix absolument, de lots absolument géniaux, historiques à la radio, notamment ce fameux enregistrement de Rascal sur FR3 et tout le reste. Et... Et figurez-vous qu'il y a un éditeur qu'on apprécie beaucoup dans le supplément week-end pour le travail incroyable qu'il mène depuis un an, que vous connaissez en librairie sous le nom de Tiao Pan, et qui s'appelle Patrick Abri, qui habite dans la région et qui nous a fait le plaisir de venir jeudi soir exprès. Et on s'est écarté, on a fait une petite interview comme ça. Et du coup, aujourd'hui, eh ben, on va beaucoup parler de bande dessinée chinoise. Là, il y a du sport qui a ramené une mélodie d'enfer. C'est justement pour illustrer ce bouquin que j'avais foutu le morceau de Saiko Maiko. Et on va y écouter de suite l'interview, je pense, parce que elle est assez longue. Elle dure un bon quart d'heure, il me semble. Et ensuite, eh ben, on a pas mal de bouquins, justement, pour illustrer tout ça. Vous allez voir qu'en plus, c'est un éditeur qui ne fait pas qu'un travail de traduction, mais aussi, il essaie de mettre en confiance ses auteurs. Parce que la bande dessinée en Chine, on se dit, c'est un très vaste continent, il y a 1 milliard d'habitants. Eh ben non, ça ne marche pas tant bien que ça. C'est plutôt un truc qui est prévu pour les gamins, pour les enfants. Et il a trouvé des auteurs absolument fabuleux qui se faisaient retoquer des maisons d'édition. Il a dit, est-ce que vous voulez être édité en France ?
Ce qu'il y a de bien dans les BD Tiao Pan, pour en avoir lu certaines, c'est que les dessinateurs de là-bas, en fait, n'hésitent pas à ajouter beaucoup d'éléments autobiographiques dans leurs BD, et notamment les difficultés qu'ils ont à être édités. Et puis, c'est vrai qu'à l'occasion de certaines BD, comme celle de Benjamin Remember, on apprend aussi leur démêlé avec les éditeurs quand ils les auront face à face. Ils disent non, il faut que tu prennes la mythologie chinoise, il y a toujours autant d'histoires, il faut que tu travailles à partir de ça, va pas t'emmerder à écrire la jeunesse d'aujourd'hui.
Tu fais ce qui se vend. Voilà. Alors c'est ça qui est amusant, c'est que tous les éditeurs en fait sont aux mains de l'État. Et pourtant, oui. Il faut que ça se vende. Donc vous allez voir, il y a le nouveau Benjamin d'ailleurs, l'auteur de Remember, qui normalement devrait arriver
le 8 décembre.
Donc on l'attend avec vraiment beaucoup d'impatience. Mais tout de suite, cette interview que je vous ai promis, juré, craché, et du sport qui est en train de s'ébrouer derrière. Donc voilà, tout de suite, l'interview de l'éditeur de Xiao Pan. Fais pas comme ça derrière, il va pleuvoir. Patrick Abri, bonsoir.
Et bonsoir, Xavier.
Tu es donc l'éditeur qui est derrière les éditions Tiao Pan, qui est spécialisé dans la bande dessinée chinoise. C'est ça qui est intéressant actuellement, c'est que il y a une énorme découverte par rapport donc aux productions sur lesquelles tu amènes dans les linéaires en France. C'est que la bande dessinée chinoise jusqu'ici, ce qui était connu, c'était la bande dessinée qui venait de Hong Kong, avec notamment des expériences via Tonkam et via Betty Edition, qui n'ont pas franchement bien marché, et aussi Glénat qui avait tenté la Chine nationaliste avec une adaptation de l'art de la guerre de Sun Tzu qui était vraiment trop scolaire et qui n'a vraiment pas plu. Et toi, tu es arrivé avec la production de la bande dessinée chinoise continentale. Comment est venue en fait cette idée de devenir éditeur ?
Alors là, c'est une idée qui doit certainement germer dans mon esprit depuis très très longtemps, puisque il y a un certain nombre d'années que j'ai envie de faire quelque chose dans la bande dessinée. Quelque chose quoi, à l'époque, je ne savais pas. Et il faut savoir que je suis ce que j'appelle un BD-pat, hein. Je suis un collectionneur et grand lecteur de bande dessinée depuis que je suis tout petit. Et j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans l'industrie et j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Et le hasard m'a mis sur le chemin de Chinois qui étaient dans le même domaine que moi et qui partageaient la même passion. Et on a eu envie de faire quelque chose à la fois pour la bande dessinée française en Chine et pour la bande dessinée chinoise en France. Et un jour, j'ai décidé de franchir le pas. Donc j'ai monté une société pour faire de l'édition.
Et alors, pourquoi la Chine continentale, la Chine communiste ?
Bon, là, c'est plutôt le hasard, encore une fois. C'est parce que je me suis trouvé avec des gens qui étaient principalement centrés sur Pékin, qui connaissaient le milieu artistique pékinois et les gens qui tournaient autour. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec ces artistes-là, il y avait énormément de potentiel par rapport à ce que moi, je pouvais percevoir de la bande dessinée, par rapport à mes goûts. Et je n'ai pas cherché plus loin.
Alors, l'édition locale, comment elle a-t-elle vu venir ce Français qui voulait se lancer dans l'importation de production locale dans son pays, en France? Est-ce que ça a été comme le Japon en 92, c'est bof, la France, vu le chiffre que l'on fait, on s'en moque un peu? Ou est-ce que ça a été comme la Corée du Sud en 2003, quand ils ont débarqué avec un budget faramineux au festival d'Angoulême en se disant « on se rattrapera d'ici 5 ans »
Ben, ça a été un peu ni l'un ni l'autre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine et le gouvernement chinois a surtout mis l'accent, en ce qui concerne les aides et l'attention qu'ils portent, a surtout mis l'accent sur les jeux vidéo et sur le dessin animé, qui sont, on va dire économiquement parlant, quand même des domaines qui rapportent de l'argent, puisque la Chine est un sous-traitant de nombreux fabricants ou de jeux vidéo ou de dessins animés de par le monde. Donc c'est un peu normal qu'ils se soient focalisés là-dessus. Et en fait, je pense qu'au début, on est complètement passé inaperçu. Les éditeurs, eux, en revanche, ceux avec lesquels je travaille, puisqu'il y a certains titres dont j'ai acheté les droits aux éditeurs, ont d'emblée été plutôt séduits, en dehors d'un seul, qui maintenant a changé de position, mais ont plutôt été séduits et y ont vu l'opportunité de pouvoir propager un peu leurs auteurs et la culture chinoise à l'étranger. Il faut savoir que la France bénéficie en Chine d'une très très grande cote au niveau culturel. C'est comme les parfums ou comme le vin. On a une image très très forte auprès des Chinois. Les Chinois ont un a priori très très positif vis-à-vis des Français. Et bon, j'ai vraiment eu... De toute façon, je n'ai eu aucune barrière, ni aucun problème de ce côté-là. Et au début, ben, le gouvernement n'a rien fait, ni dans un sens ni dans l'autre, par rapport aux démarches qu'on avait entreprises. Bon, depuis, notamment ces derniers mois, leur position est en train de changer et ils sont en train de développer des aides à la bande dessinée chinoise, à l'export, aides dont on compte bien profiter dans les prochains mois.
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, les premiers titres que tu as édités, ça a été des titres qui ont étonné tout le monde parce qu'on était à milieu de la manga, ce qu'on pensait qu'ils allaient être très influencés par le Japon, par la Corée du Sud, qui a une production très forte. Et là, au contraire, Festival d'Angoulême en janvier dernier, ça a été, mais la rumeur incroyable, c'est il faut découvrir Remember, il faut découvrir ce Benjamin, c'est un auteur chinois et graphiquement, il est très fort. Alors, quelle est un peu la palette de la création dans ce pays?
Ouais, j'aurais du mal à te répondre parce que je suis loin d'avoir fait le tour de la question. Il est clair qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la créativité et la création en Chine a quand même été relativement encadrée par l'État. Et en ce qui concerne la bande dessinée, on peut dire que la créativité est assez pauvre. Les genres de bande dessinée qu'on trouve en Chine sont à 95% orientés jeunesse, on va dire vraiment jeunesse, quoi, moins de 12 ans, avec soit des histoires d'humour, soit des histoires qui ont des rapports avec l'histoire de la Chine ou avec les traditions chinoises, un petit peu d'importation japonaise, hein, quelques titres, quelques séries, mais aussi de la production locale qui copie sur le style japonais. Et puis un petit peu de franco-belge avec des titres comme Tintin ou plus dernièrement des titres comme Les Profs ou Élèves du Cobu ou Le Petit Spirou exactement, qu'on trouve un petit peu dans les bacs puisque la Chine souffre d'un autre mal qui est une absence quasi totale de distribution et logistique qui fait que même les titres qui pourraient marcher ont du mal à parvenir jusque chez les libraires.
La censure locale, puisque quand même la Chine n'est pas un pays qui est vraiment libre au niveau de temps de parole. On se souvient à une époque que c'était il y a 2 ans quand il y a eu les éditions de Tintin qui ont commencé à sortir en chinois. Ça a fait un foin énorme quand on a appris que le titre de Tintin au Tibet était devenu Tintin au Tibet chinois. Est-ce que de ce côté-là, les auteurs sont réellement enquiquinés? Et toi, qu'est-ce que tu leur as amené?
Alors, juste un rectificatif, hein, l'édition de Tintin au Tibet chinois date de 2001. les auteurs ont énormément de mal à pouvoir faire passer tout ce qu'ils veulent. Alors, il y a une censure de l'État, mais je ne sais pas exactement comment elle s'exerce dans la pratique. La seule chose que je sais, c'est que les éditeurs en ont énormément peur, parce que les éditeurs aujourd'hui appartiennent tous à l'État, il n'y a pas d'éditeurs privés en Chine. Les éditeurs en ont peur, et pour moi, ils ont plutôt tendance à faire de la surenchère, c'est-à-dire qu'ils savent ce que l'État sans doute autoriserait, mais pour être sûr de ne pas avoir de problème, il resserre le cadre, ce qui fait que ce qui est aujourd'hui éditable est encore plus restreint que ce qu'il serait dans la pratique. Bon, cela dit, je fais une parenthèse. Quand j'ai monté le festival de la bande dessinée à Pékin l'année dernière, on était obligé de soumettre tous les visuels des expositions et tous les albums à la censure. Moi, je peux dire que dans les albums que j'ai passés, que ce soit les œuvres de Baudouin ou d'Algeziras ou d'autres, il y a pas de contenu politique, ça je m'y étais attaché. Par contre, il y avait des contenus érotiques limite et les artistes avaient peur qu'on se fasse rejeter et tous les articles ont passé la barrière. Donc, c'est un peu difficile de savoir qui décide quoi et comment. Mais bon, ça dit, les auteurs aujourd'hui, on se trouve face à ces éditeurs qui sont frileux et les éditeurs refusent carrément de sortir les bouquins. Un exemple concret, on va sortir dans 15 jours le prochain album de Benjamin dont tu parlais tout à l'heure, qui s'appelle Orange. Benjamin a commencé cet album il y a 3 ans et quand il est allé présenter le projet à l'éditeur, l'éditeur a dit non, je ne publierai pas. Bon, après, on a commencé à travailler ensemble, donc sur mes conseils, il a terminé l'album et donc moi, je vais le publier. Cet album va donc sortir, on va dire, en première mondiale. Il est sorti nulle part ailleurs. Et son éditeur refuse toujours de l'éditer tel quel. Il lui a dit qu'il fallait qu'il fasse des coupes dedans parce qu'il estime qu'il y a des scènes qui sont trop déprimantes ou trop difficiles. Par exemple, il y a un gars qui se jette du haut d'un toit et qui se suicide sur le toit d'une voiture. Il y a des scènes où le gars met la main dans les culottes de la fille. Bon, dire ça, ce sont des scènes qui aujourd'hui passent pas encore sur le marché chinois. Donc les auteurs en souffrent. Et moi, ce que je leur apporte, ben, c'est la possibilité de pouvoir créer à peu près ce qu'ils veulent, sachant qu'aujourd'hui, ils sont loin de pouvoir être aussi osés et, dans quelques domaines que ce soit, que ce qu'on peut trouver dans le domaine franco-belge ou dans le manga japonais.
Alors, depuis tout à l'heure, je suis assez séduit et je pense que ceux qui connaissent un peu la bande dessinée et qui s'y intéressent un peu sont assez étonnés. C'est toutes les références à plein d'auteurs, que ce soit Algezira, Edmond Baudouin et que tu cites. Et en fait, ce qui t'a donné le plus le déclic de l'édition, c'est le fait que tu as organisé sur place un festival.
Ben, le déclic de l'édition, j'ai eu avant, mais c'est ce qui m'a permis de vraiment réaliser le projet. Parce que ce festival que j'ai monté avec une association qui s'appelle 16 000 images, qui est originaire d'Angoulême, je l'ai monté en octobre 2005, qu'on a baptisé le premier festival de l'image dessinée française à Pékin, nous a permis d'emmener une trentaine d'auteurs, avec des gens donc, que j'ai déjà cités, mais aussi des gens comme Buchet, Vatine, Morvan, il y avait Rochette, il y avait Civiello, il y avait Davodo, et bon, j'en passe, c'était une trentaine, je ne vais pas tous les citer. Et c'est vrai que ça m'a permis d'acquérir une certaine crédibilité auprès du monde de la bande dessinée, dans lequel j'ai débarqué en fait au début de l'année 2005 à Angoulême, quand je suis arrivé avec mon projet en disant tiens, moi je m'intéresse à la Chine, je vais monter un festival à Pékin. Bon, les gens m'ont d'une façon générale pris pour un fou, y compris mes meilleurs amis. Bon, le fait d'avoir réussi à le faire en 6 mois a prouvé que on n'était pas, on était peut-être fou mais quand même capable de faire des choses. Et en fait, ça nous a donné une certaine crédibilité et il y a des gens dans le métier qui se sont dit bah tiens, ce petit gars, finalement, il a des idées, il est sympa, il a fait un truc cool, on va lui donner un coup de main. Par exemple, depuis, je me suis fait un ami très proche de Lily Vatine et il me donne régulièrement des conseils. On travaille ensemble sur un certain nombre de projets et on est devenus très très proches. Quoi.
Comment tu travailles, comment tu choisis les albums que tu vas publier? Est-ce que c'est par coup de cœur ou est-ce que c'est finalement par marketing parce que tu choisis à quel public tu vas le vendre?
Non, je ne raisonne pas trop par rapport au public auquel je vais le vendre. C'est d'une part le coup de cœur, ça c'est certain. Je me vois mal mettre sur le marché un album que j'aimerais pas du tout. Ça, je suis un peu comme beaucoup d'éditeurs. Sauf si j'étais vraiment sûr que je vendrais 500 000 exemplaires dès la première semaine, auquel cas je ferais l'effort. Mais c'est aussi par rapport à ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire que j'ai plutôt une démarche par rapport à une stratégie d'occupation du marché chinois qu'une véritable stratégie du marché français ou franco-belge. Parce qu'aujourd'hui, le marché franco-belge est tellement vaste, avec tellement de types de lecteurs et tellement de cibles, que quel que soit l'album que je vais mettre sur le marché, de toute façon, il trouvera son lectorat.
Quels sont tes projets en dehors de l'édition en France vis-à-vis de la bande dessinée chinoise, puisqu'apparemment, c'est ceux qui te passionnent vraiment actuellement?
Ben oui, c'est devenu d'une entreprise née du hasard. C'est devenu effectivement une vraie passion. Je crois que j'essaye de devenir le vrai spécialiste de la bande dessinée chinoise, et pas seulement au niveau français, mais au niveau européen. Là encore, j'essaie d'occuper le terrain. Mes projets, c'est monter des expositions, c'est essayer de faire connaître la bande dessinée chinoise en dehors du monde de la bande dessinée lui-même, la faire découvrir à un public plus large, la faire découvrir à d'autres genres, à ceux qui se passionnent pour la musique, à ceux qui se passionnent pour le cinéma, et essayer de montrer un peu quelle est la richesse de ce moyen d'expression, de ce moyen d'expression graphique que beaucoup de jeunes auteurs maîtrisent parfaitement.
Sur le prochain festival que tu veux monter ?
Alors, le prochain festival de l'image dessinée française, la deuxième édition est prévue en avril 2007. Je l'avais prévu initialement en septembre 2006 et j'ai dû le repousser faute de financement, puisque la première édition a été déficitaire et j'ai dû combler une partie du déficit de ma poche. Et il est hors de question que je renouvelle l'expérience en 2007, parce que je préfère me consacrer entièrement à Xiaopan et à la BD chinoise. Mais j'estime que c'est une expérience qui est tellement intéressante que ce serait dommage de l'abandonner. Donc je cherche et je continue à chercher des partenaires financiers, qu'ils soient privés ou publics. Donc avis aux amateurs. Pour tout renseignement, contactez Xavier sur la radio qui transmettra. Non, il y a vraiment des contacts et des liens à créer entre les dessinateurs et les artistes français et chinois. Et je pense que c'est une excellente occasion de le faire. Donc ce serait dommage de rater l'échéance.
Patrick, merci beaucoup d'être venu ce soir. Et puis, je dirais bien bon vent, mais Marco Polo n'était pas un marin, c'était plus un marcheur.
Non, mais la marche m'a jamais fait peur. En tout cas, merci de m'avoir invité, c'était avec plaisir. Ça m'a sorti un petit peu de mes bouquins et de ma paperasse, donc ça m'a permis de prendre un peu l'air, ça fait toujours du bien. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très prochainement. Merci à toi.
Merci. Patrick Abri, donc, qui est derrière les éditions Xiaopan. Mais qui donc a aujourd'hui, pendant les 25 ans d'éphémère, on a parlé un peu mondialisation. Et croyez-moi, on va continuer puisqu'on va parler justement des dernières parutions chez cet éditeur qui sont vraiment de très bonne qualité. On en discutait justement avec un des BD libraires assez importants de Toulouse et il disait c'est agréable quand on a une bibliothèque publique qui vient nous voir d'avoir un éditeur sur lequel on peut dire à un bibliothécaire vas-y prends, c'est du bon. Et c'est vrai que de ce côté-là, il y a une très 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 bonne sélection qui est faite, il y a un excellent travail éditorial. Ce qui est plutôt intéressant. Et justement, on va commencer avec le Jihan, plutôt le studio Jihan, puisque en fait, ils sont mis à quatre derrière pour une bande dessinée, une nouvelle série qui s'appelle New Mao. Le premier tome s'appelle Gare au chat chinois, c'est donc chez Xiaopan. Et New Mao, en chinois, je suppose que ça veut dire, que c'est en mandarin, ça veut dire chat vache. C'est en référence à la robe du chat. Qu'on aurait quand même un peu du mal à le confondre avec une Normande à poil long. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de tenir une laitière sur les genoux, c'est pas évident et ça ronronne pas franchement comme un félin. Ça tient chaud, oui, mais bon. En fait, New Mao porte aussi son surnom à cause de sa propension à faire des bêtises. Oui, des bêtises quand t'es pas là, mais aussi en ta présence. Il mange comme 4, voire parfois comme 6, et particulièrement mal élevé. Fout une pagaille monstre en appartement et il a tellement exaspéré ses maîtres qu'ils s'en sont déchargés sur une tierce personne, la pauvre fille. Bon, alors, vu que les trois animateurs de cette émission sont tous repossesseurs de félins d'appartement, je sais pas, du sport, non ? Ton chat, il est plutôt d'appart ou plutôt dehors ?
Là, je crois que ça passe pas, hein, tu vois. Si, ça passe ?
Oui, ça passe.
Ah bon, ok, tu sais, c'est comme tous les chats, hein, je crois, c'est l'été dehors et l'hiver dedans.
D'accord. Oui, en clair, quand il y a Prison Break à la télé. Thomas, toi, non, lui, c'est dedans et fermement dedans.
Ah oui, intérieur, il va tout au plus renifler les moquettes, mais c'est tout à côté.
D'accord. Bref, on sait parfaitement quand tous les trois, on sait très bien que c'est pas on n'est pas maître d'un chat, mais en fait, c'est le chat qui vous adopte. D'ailleurs, on n'est pas responsable des dégâts effectués par un chat, on vous regarde la loi, alors qu'un chien, oui. Un chat est vu différemment, alors que pourtant un chat est considéré comme un objet.
Parce que le chat est sage, il s'attaque pas à la tapisserie, il ne vient pas ses griffes sur les
sur le canapé.
Voilà, non plus, c'est gentil.
Jamais.
Enfin bref, le chat il arrive en général à vous mener en bateau, à jouer au Kalina Kalinou et à faire celui qui sait pas quand on lui met la truffe dans la crotte toute fraîche. Non, c'est pas moi. En clair, parler du chat c'est un thème universel. Sauf qu'en Chine, avec la politique de l'enfant chinois, j'ai l'impression que les maîtres se laissent encore plus faire. Alors si le célébrissime comité contre les chats avait une section chinoise, je suis sûr qu'avec un bestiau pareil, il doit avoir beaucoup de boulot. C'est un bouquin rigolo, vivant, colorée, plutôt universelle. Pour potiser grand, mais entre nous, même si elle est très sage, je ne confierai pas le bouquin à ma minette. Je ne sais pas pourquoi. Niu Mao, Garrocha chinois, le tome 1 donc vient de sortir de cette nouvelle série chez Chiaopan et c'est créé par le studio Jihan.
Petite pensée pour ma Sabrina qui est clouée au lit avec la grippe et ce livre, je suis sûr, lui fera beaucoup plaisir.
Ah ouais, parce que c'est vraiment craquant hein, comme dessin, c'est très très agréable. On va continuer avec Pocket Chocolate, le monde du sud, chez Chiaopan. Vous auriez vu les yeux de Thomas justement tout à l'heure à hors antenne. Enfin, en fait, on était déjà. On a commencé à midi quoi.
Alors attends, il faut que je retrouve la BD parce que là il y a du sport qui m'a.
Je le vois,
prêté sur foot et il y a un article sur Fabinho a-t-il deux bites. C'est pas le même truc.
Excellent.
Non mais attendez, on est dans la bande dessinée, il est que midi 25, ça va être l'heure de la pub. Voilà. Pocket Chocolate donc nous raconte l'histoire de Jin Tian, qui est un jeune homme qui galère pas mal mais espère un jour devenir photographe professionnel. Oh, pas le genre reporter, non, on est en Chine, mon cher ami. Bon, plutôt photographe artistique, attiré par le travail esthétique, la mise en lumière, la situation. Un jour, il s'inscrit à un énième concours de photographie sur le thème « Le paradis sur terre ». L'occasion pour Jin Tian de quitter la grande ville qui l'enferme pour revenir vers la campagne de sa jeunesse. Les paysages, les montagnes, les grands champs, les rizières en terrasse. Un retour en enfance car le paradis reste celui de ses premières années. Et de retrouver celle qui fut son premier amour, la jolie Siyi. Mais voilà, l'histoire se brise quand Jin Tian apprend que Siyi est morte quelques jours après son départ du village, que jamais il ne pourra gravir avec elle le monde du sud qui borde son village, là où le paradis sera accessible sur terre. C'est une très belle histoire, sentimentale, naïve, fraîche et lumineuse. L'idée est simple, mais la mise en scène vaut une très très belle photo. Le monde du sud de Pocket Chocolate. C'est une histoire complète.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même colorisé avec logiciel Painter, donc ça permet d'avoir des coups de pinceau.
Toi, tu le vois comme ça. Hein. C'est Painter, t'es sûr?
Oui, c'est quasiment sûr. Ouais. Parce que c'est pas Photoshop, ça c'est clair. Tu as un côté vachement expressif et t'as un côté jeté, paradoxalement, par rapport au fait que ce soit vraiment fait vers l'ordinateur. Et c'est pas léché, froid, mais t'as un côté vraiment, on dirait vraiment proche de l'esquisse parfois. C'est ça qui est vraiment sympa.
Il y a une spontanéité assez agréable. Continue, c'est un marathon, il y en a 6. Chen Weidong au scénario et Peng Chao au dessin, les contes du villageois, le premier cycle s'appelle Un monde idéal, on en est au tome 3 sur 5 de la série Un monde idéal, et cet album s'appelle Le Cirque. Ayo nous avait séduit, c'était l'histoire d'un garçon à la déveine continue, renvoyé de son boulot de cariste parce que je vous dis pas les dégâts que vous pouvez faire dans un stock avec un petit transpalette qui représente un peu la jeunesse des abusés des grandes villes et qui rêve de s'enrichir plutôt d'être confortable quoi financièrement et de fonder un foyer mais qui a du mal à s'en sortir. Ayant quitté précipitamment la ville et ses espoirs déçus, le voilà qui se paume dans une immense forêt errant à la recherche de nourriture. Et la magie nous fait rappeler que nous ne sommes pas dans le monde réel, mais plutôt dans une fantaisie, puisqu'il tombe sur une étrange maison qui n'a de porte que si on songe à y entrer. Au cœur du bois, cela fait un peu Hansel et Gretel, non ? Le destin d'Ayu va changer de tout au tout pour la rencontre d'un être bizarre qui va lui ouvrir les portes d'un autre monde. Mais Ayu, va-t-il vraiment y trouver ce qu'il y cherche, c'est-à-dire le bonheur ? Un beau conte, matinée d'idées graphiques assez plaisantes, on sent que le dessinateur se lâche à créer un univers et chaque planche révèle sa petite curiosité. Chen Weidong au scénario, Peng Chao au dessin, les contes villageois, le cycle 1 donc c'est un monde idéal et on en est au troisième tome sur 5, le cirque, c'est Chiaopan. C'est d'ailleurs à ma connaissance la seule série pour l'instant qu'ils ont édité qui s'étale sur plus de 2 ou 3 tomes. J'ai pas envie de me faire couper par la pub.
Mais je te comprends, Xavier.
Ouais. 12h29 sur la poubelle des radios, donc tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe donc en ce moment en soirée en ville ? Ouais, les 25 ans !
J'ai été touché.
Normal, tout le monde sera touché. 23 novembre au 6 décembre, 25 événements sur 20 lieux toulousains pour les 25 ans d'une bête de radio, FMR. toute la programmation disponible en détail sur www.radio-fmr.net. Parce qu'il y aura Nurgle, des trolls, GVK, Defray, Fuel Insect, Broken Toy, DJ Peyo, DJ SKS, Mr. Oxmo Puccino.
Quoi qu'il en soit, on est souvent dans la merde. Même dans la joie, il faut rester en alerte. Tu peux te plaindre, t'as toujours quelque chose à perdre, quelque chose à perdre.
DJ Yules, Stéréotype, La Plèbe Production, DJ Cole, DJ Fly.
Tu peux te peindre, t'as toujours.
Et c'est aussi Jean-Louis Coste.
Putain, merde, fais chier, c'est quoi cette bite archaïque qui pend jamais quand on veut? On est plus au temps des limaces, merde! On est au 21ème siècle quand même!
XOR, Gwyn & B, Starlight Boys, Opéra, Hypnolove, Exomil, J-Error, DJ Tro, Cosmo Giraffe, Christian Morin, All Star, Docteur Disco, Mac Massoud, DJ Pacha.
Alors maintenant, quelle est la suite?
La suite, c'est Concoy, Neurotic Explosion, Open Nightmare, Les Bêtes, Skywar, Zoomen, Cabrons, Greedy Guts, Leptic Ficus, Bitoku. Du métal aussi avec Carnaval In Call, GTI, Sony Red, Playband Grandstand, ainsi Cripple la Lune, Fabulous, Peter Panties, Expérience et bien d'autres. Du 23 novembre au 6 décembre, les 25 ans de Radio FMR, visible sur www.radio-fmr.net.
T'aurais suivi ça, c'est du sport, tu le saurais, mon gars. On saura jamais.
On saura jamais parce que toi, t'es comme moi, tu subis le programme.
Ah ouais.
Parce que c'est un peu au jour le jour. Vraiment, faut aller sur le site de la radio ou écouter Rascal. Seulement, comme Rascal ne bosse pas le week-end, bonne chance. Mais
non,
néanmoins.
Non, mais c'est Mathieu là, hein. C'est pas Rascal. Hein.
Oui,
Rascal
je sais.
A rien à voir.
Mais je sais, mais bon, voilà, Mathieu ne fait pas des bandes son quand tu sais pas. C'est un métier de faire des publicités. Merde.
Enfin. D'ailleurs, t'as monté les pubs du sport, mais les nôtres, on les attend toujours. Hein.
Ouais, je sais, mais je l'attends pour la relance à partir de la centième.
Ah.
Il y aura tout. Un nouvel habillage, tout. On aura rénové, on aura refait le studio, refait l'éclairage.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Ça va être nickel là.
Si on pouvait commencer par l'éclairage, ce serait pas mal, quoi, tu vois.
Bon, d'accord, ok. Et
nous avons les moyens de vous faire parler.
Ya. Voilà, la spotlight direct dans la gueule. Non, refou vers le haut, oui, c'est beaucoup mieux finalement. Donc ce soir, pour les 25 ans de la radio, il y a la soirée HXC avec le massacre du client de 15h. C'est Screamo HXC de Paris, Abused, c'est du punk metal de Figeac. Tiens donc. Solde, c'est du Psyché Garage Noise. Et une surprise, c'est au bar Le Dollar, c'est à partir de 20h et l'entrée est 5€ et le bar Le Dollar, c'est avenue des États-Unis, route de Paris. La soirée Drum and Breadcore obligée du samedi soir des grosses stuff de FMR. SKS, Payo, Nurgle Détro, GVK, Fuel, Insect versus Defray et Broken Troy, c'est au Marin d'Eau Douce. Les Marins d'Eau Douce, c'est une péniche qui est à côté de la fac de droit.
À Ramonville.
Ah merde. Ah oui, le Marin d'Eau Douce,
c'est.
Excuse-moi, c'est la salle des fêtes, la SDF, voilà, de Ramonville.
En face de la fac de droit, c'est le cri de la.
Mais j'ai planté ma caisse mercredi, comment veux-tu que j'y aille? Mince, pas à pied, non, s'il vous plaît. C'est à partir de 23h et l'entrée de 5€, voilà. Et on arrête là les publicités, puisqu'on reprend dans la chronique BD, dans le supplément week-end. Avec l'adaptation d'un roman. The One Two adapté par Chen Wen et Son Yang. Wild Animals, c'est le tome 2 sur 2, Violence et Amour. Alors donc cette BD est l'adaptation d'un roman qui à l'époque a eu pas mal de succès. Un film a d'ailleurs été tiré de cette histoire, Des jours éblouissants, de Chen Wen, mais qui n'a pas été exploité en France, tout au plus montré en festival, il est pourtant considéré comme un film exceptionnel, à y savoir pourquoi. L'histoire plutôt banale de l'amour platonique entre le jeune Cha Young et Milan est intéressante à cause de l'époque où elle a lieu. C'est la Chine de 1969, celle de la révolution culturelle, d'un retour aux valeurs morales très marquées sous la haute présidence du camarade Mao. Alors, quand la bande de Cha Young parle de faire le mur, c'est vraiment peu de choses pour nous, c'est juste fumer des clopes sur le toit, tu vois, et parler un petit peu avec les filles, mais ça va pas plus loin, ou manger des glaces. Et quand ils se font attraper par une milice de quartier, on tremble vraiment pour eux, vu le peu de choses qu'ils ont réellement fait. Et quand on voit Cha Young recevoir une leçon de morale de son père implacable, commissaire du peuple, c'est sans réelle violence, mais on sent l'humiliation et l'hypocrisie. J'avais déjà fortement recommandé le premier tome de cette histoire. Celle-ci se termine dans le deuxième. Et on suit les deux jeunes qui aimeraient bien s'aimer. Les plaisirs simples entre amis, les loisirs de l'époque, mais aussi des orientations politiques dans la vie de tous les jours. Par contre, sur l'histoire d'amour, et puisque vous aimez les spoilers dans cette émission, sachez qu'elle part vers une immense déception. L'histoire est triste, et la claque est assez vigoureuse. Wild Animals, dessiné par Song Yang, le deuxième et dernier tome s'appelle Violence et Amour, c'est chez Chao Pan. Thomas, t'es en train de lire Step ? Alors tu vas me faire la chronique là, Zou. Ça va,
oui,
me permet de caler.
Même si je suis pas spécialiste BD, c'est Step, donc le tome 1 Dynasty Tang, dessiné par Yu Yan Shu et scénarisé par le même. Alors c'est là je suis spécialiste aussi des BD faites sous Painter, puisque c'en est une encore. Ça raconte l'histoire de Dynasty Tang, c'est une petite vampire qui est élevée par son grand frère, en fait, elle a perdu toute sa famille. Enfin, son grand frère entre
Vampirique.
Guillemets. Il est tueur de vampires, lui, par contre, il s'appelle Monsieur Han. Et par contre, en fait, le truc, c'est que ça réactualise le mythe du vampire avec un humour assez frais par-dessus. C'est assez expérimental au niveau des couleurs, puisque...
Même sur le côté graphique, il ne cesse pas de changer de style.
Oui, oui, mais en plus, à défaut de garder une esthétique, une atmosphère, on va dire, un peu à l'entretien avec un vampire, en fait, pas du tout. Le mec, il utilise beaucoup de couleurs. Les bulles sont dans des aplats colorés aussi, jaune, rose, pastel, bleu. Et comme tu disais, ça change de style d'une page à l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas les avoir en super déformé. Après, tu vas les avoir en très jeté comme un croquis, alors que c'est une scène d'action. Des fois, tu comprends pas trop. Ça frôle tout le temps avec un style faussement maladroit, et d'autres dessins par contre sont vraiment porteurs d'émotion. Donc c'est une BD assez intéressante, ça se lit vite, c'est joli parfois, des fois c'est vraiment comique, c'est, tu rigoles aussi dedans, c'est assez, on va dire, c'est déroutant. C'est surprenant, comme tu dis. Donc, c'est Step. J'attends le tome 2. Parce que c'est une histoire en deux tomes seulement.
Ouais, ouais, mais en fait, c'est recueil de petites histoires.
Oui, oui, voilà, c'est ce que j'ai oublié de dire.
Ce qui fout la rythmique, ouais, hein, quand même.
Voilà, c'est des petites histoires. Et puis, à la fin, on a des dessins de l'auteur. Bon, les dessins, c'est à l'image de la BD. C'est-à-dire qu'il il a fait un effort parce que c'est quand même des dessins pour un artbook, mais ça a quand même le côté jeté encore, donc c'est t'as des traits qui sont des traits hésitants, ils repassent plusieurs fois dessus, donc c'est voilà, ça garde quand même une spontanéité dans le trait, c'est assez agréable à lire. Donc c'est Step, dessiné et scénarisé par Yu Yan Shu, et le tome 1 s'appelle Dynasty Tang, c'est Chao Pan.
Looming, la deuxième partie de son histoire Mélodie d'Enfer. Ah, du sport, il vient de me ramener le premier, il s'est fait plaisir. Le deuxième tome s'appelle Réincarnation, chez Chao Pan, toujours, puisque en fait là on fait que parler que deux. Et voilà, donc la suite, elle vient d'arriver. Dans l'au-delà, c'est l'histoire de Liu Hei, Zhang Chao et Li Yainan. Et je sais pas si depuis le début de l'émission je dis les noms chinois, je les dis bien. Hein. C'est performance, hein. Attends, s'il te plaît.
De toute façon, qu'on lit beaucoup de BD étrangères ici, donc on est en entraînement.
Ouais. Donc, c'est l'histoire de trois jeunes garçons qui sont tous trois suicidés, donc condamnés à attendre très longtemps sur la prairie du paradis, à patienter impatiemment leur ticket d'entrée pour changer de lieu en montant leur groupe de métal, The Third Man. C'est pas très français ce que je viens de dire. Oui, en fait, ils tuent le temps, en fait, en étant suicidés, en montant un groupe de métal, The Third Man. Mais depuis le départ de leur guitariste, ils en cherchent un nouveau et l'ont trouvé. Petit hic, il est vivant. Alors pour que le groupe puisse recruter le guitariste solo dont il rêve, il faut faire en sorte qu'il se suicide. Cela... Logique. Hey Kurt, Kurt, il est pas bon le groupe que tu veux monter, hein, au paradis, c'est une mauvaise idée. Ciao Kurt Cobain. Cela tombe bien puisqu'il y a plein de leviers, sa carrière ne marche pas aussi bien. Le heavy metal mélodique, à part Bruce et Ludo de Nocturnal Tears le mercredi soir très tard, je ne vois pas qui d'autre à l'antenne en écoute dans ces dans cette radio. Ah oui, en plus il a une petite amie. Oh, et en plus une petite amie qui veut se lancer dans une carrière musicale plutôt pop. Bon, on pourrait faire en sorte qu'elle le plaque ou alors qu'elle soit tuée. Tuée, et là la mélodie dérape. Il était justement question de recruter un musicien, mais absolument pas de passer au meurtre. Parce que là, fini le paradis, fini la réincarnation. C'est des tickets directs pour l'enfer. Ou le taulier, il est moins cool. D'ailleurs, c'est un fan de Jordi, non pas de Johnny ou de Lordi. J'ai bien dit Jordi. À la fin de cette histoire complète, eh ben, la finale est fort comme un rappel. Elle est tragique, désespérée, et les Larsen vont vous donner des acouphènes. Mais quand on est mort, on se fout un peu d'être à moitié sourd. Mélodie d'enfer, tome 2 sur 2, réincarnation, c'est Looming, et ça clôt donc 6 bouquins chroniqués de cet éditeur qu'on apprécie beaucoup, qui s'appelle Chiao Pan. Et quitte à mettre de la mélodie chinoise. Oui, Thomas, pardon.
Oui, il nous avait lâché notre info, ton interviewé, là.
De quoi ?
Si je te dis Seven Swords.
Oui, c'est vrai.
Il a monté un projet collectif.
Ah bah oui, parce qu'on l'a rencontré, il nous a dit que là, il... Ouh.
J'étais là aussi.
Ouais. Et voilà, Seven Swords, voilà, il a monté un projet autour de quelques artistes, bah, 7 artistes chinois qui ont fait chacun une BD ou une image, une grande fresque en fait. C'était plusieurs, un recueil d'images en fait, autour de l'histoire de Seven Swords qui, justement, est avant d'être le film de Tsui-Hark, a été quand même inspiré par une série de bouquins qui est assez connue en Chine. Et donc on attend ça aussi. Et d'ailleurs il a ajouté aussi que ça a été exprès fait pour le public français.
Donc oui, parce que c'est une chose qu'on a oublié de signaler, que j'ai dit au départ, c'est qu'en fait la plupart des bouquins qu'il publie, il a vraiment du mal à trouver preneur. Et puis sinon si vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à réécouter cette émission, c'est possible. Si vous nous écoutez à la FM.
Mais comment qu'on fait ?
Ceux qui l'ont déjà dans leur ordinateur, ils savent déjà, donc ils peuvent déjà avancer 30 secondes. Mais sinon, vous allez sur le site internet radio, www.radio-fmr.net. Ou sinon, vous googlez sur le petit doigt, sur les moteurs de recherche, et vous cherchez supplément week-end MP3, FMR, BD, cinéma, TV, du sport, et tout le reste. Et normalement, vous mettez tout plein de mots-clés, vous avez beaucoup de chances de tomber sur nous.
Non, mais on rigole avec du sport parce que Xavier avait, après, ça fait combien là ? C'est la 93e émission là ?
Oui.
Il veut toujours pas dire l'adresse de son site. Alors il essaie toujours de dire oui, il faut taper Google et tout.
Mais je renvoie sur le site de la radio, ce qui me semble plus logique. Sinon, vous allez sur dascritch.net, dascritch.net. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas entendu, je le répète, dascritch.net. Je voilà. Me suis pas planté. C'est ça que t'attendais, hein ?
Non, pas du tout.
Bon, d'accord. Allez, tout ça, on part dans la plus grande gloire chinoise. Et je vous rassure, c'est un groupe de heavy metal, là aussi. Spéciale dédicace à Kinou !
Oh!
Et maintenant, le cœur des balayeuses. Impitoyable, je l'aurais mis jusqu'au bout celui-là. Dynasty Tang, le multimondialisme communiste international et capitalisé. Non, c'était nul. Thomas.
Oui. Alors je vois que tu parles de nécrologie aussi, il faut dire un mot dessus ou non ?
Oui, je pense, oui. Attends. J'ai la petite musique, tant pis, il y avait l'autre jingle. Ah, ça tombe comme des mouches cette semaine.
Bah ouais.
Nous ont quitté cette semaine
Robert Altman,
réalisateur.
Francis Giraud,
réalisateur.
Philippe Noiret,
acteur.
Et Basil Polidori, c'était pas cette semaine, mais il y a pas longtemps non plus. Ouais, compositeur. Nous vous demandons de ne pas applaudir. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Moi, Robert Altman, de toute façon, moi j'étais pas fan de ce qu'il faisait.
Quoi?
Mash, je l'ai acheté en DVD il y a 2 ans, j'ai toujours pas vu. Et Shortcuts, j'avais zappé à un moment donné parce que bon voilà. Mais après, moi je reconnais que c'était un grand, mais enfin, moi,
zappé
moi perso,
hein.
Non. Et même The Player, j'ai. Voilà.
Et le privé, surtout Mash, quoi.
Oui, Mash, j'ai pas vu alors.
Ouais. Le privé, c'est celui qui a fait un petit peu après, avec Elliot Gould également dans le rôle principal du privé. Et il a fait plein d'autres films, hein, de toute façon, quoi. C'est un type qui
tournait pas mal, ouais.
pas à la fréquence d'un Woody Allen, c'est-à-dire pratiquement un long métrage par an, presque, hein, on va dire. Hein. Il a connu une petite période fin des années 70, début des années 80, où bon, ça allait un petit peu moins bien, parce que comme il avait quand même une étiquette de cinéaste bien engagée, mais qu'il appartenait quand même à cette frange de cinéastes des années 60, hein, qui avait commencé dans les années 60, mais qui n'était pas franchement du côté des studios, mais quand même déjà, il faisait encore partie de l'ancien moule.
Oui, c'est la génération des Warren Beatty. Hein.
Voilà, c'est ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'il
non, mais
du
sport, l'aide pas, parce que je parie que si je dis Philippe Noiret, il n'a même pas vu un film, lui, il préfère regarder, tu vois, les trucs style Master of Horror et tout ça.
Oh putain, si. C'est ça que j'ai oublié.
Bah ça tombe bien, j'en ai un.
Bah okay, tiens, c'est bon, allez alors. C'est parti.
«
le DVD en Dolby Mono Surround, parce que là il est 12h50 sur la poubelle des radios, on va jamais arriver à temps quoi.
Ouais. Non, juste pour terminer, je voulais également dire que bon, MASH, c'est quand même le film qui a été le plus marquant dans la carrière de Altman, parce que il a eu cette fameuse palme d'or, hein, parce que il sortait à un moment bien défini où la guerre au Vietnam était c'était complètement dans le trou. Elle allait se terminer, je crois, 4 ans ou 5 ans plus tard, la guerre, parce que bon, bah vraiment, ils en pouvaient plus. Et bon, là, c'était vraiment le brûlot et tout, enfin, un petit peu déguisé parce que c'est censé se passer en Corée, hein, oui, pendant la guerre de Corée.
Censé être humoristique et tout ça.
Ah oui, non, mais tu pisses dessus de rire, du début jusqu'à la fin. Il y a également des passages pleins de tendresse et tout, des passages un petit peu poignants et tout. Bon, c'est vraiment un très très bon film. Et c'est également le film qui a donné lieu à une série qui a eu vachement de succès. Peu de temps après, hein, peu de temps après la sortie du film, 2-3 ans après, bah, on a initié une série qui a très très bien marché également, hein, ce qui est quand même assez rare au niveau du cinéma, de pouvoir dériver comme ça une série 2-3 ans après et faire une série qui marche en plus, hein, qui a duré, je sais pas, plus d'une dizaine de saisons quand même.
Et puis bon, t'es gentil, Philippe Noiret, moi j'aimais bien aussi, et puis je connais pas beaucoup de monde qui l'aimait pas, ce mec, hein, donc bon voilà.
Oh bon, voyons.
Alors, là j'ai quand même un petit Masters of Horror de derrière les fagots, là, puisque j'ai Jennifer de Dario Argento. Est-ce qu'il y a des amateurs ici de Dario Argento ?
Oui, un peu, oui,
bon,
quand même.
Voilà. Alors, ce moyen métrage de la collection Masters of Horror, c'est avec Steven Weber et l'actrice principale, j'ai pas pris le temps de noter le nom de la fille d'ici hier soir. Et ça raconte.
Le Steven Weber, c'est de Dario Argento, d'accord, ok. Ouais,
ah ouais,
okay.
Donc tu l'avais vu et tu savais pas
non,
que c'était.
Non, mais moi j'ai vu des. Je le vois sur le kiosque, donc je vois comme ça, quoi, en zappant de temps en temps, tu vois. Quoi. J'essaie de me remonter le
truc. Bon, alors moi je vais essayer de dériver, je vais dire quand même merci à Kinou. Je vois que le service SMS Plus de la radio fonctionne très bien et je. Oui. Vaut mieux éteindre les téléphones pendant le direct.
Voilà, donc ça raconte quoi ? Durant son service, Frank Policier surprend un déséquilibré tentant de décapiter une superbe femme. Avant de mourir, l'homme mystérieux a juste le temps de prononcer le prénom Jennifer. Fasciné par cette femme, Frank va l'accueillir chez lui, au grand désespoir de sa femme, car cette femme, eh bien, elle a une tête de monstre. Alors c'est ça qui fait l'attrait du film, c'est que Argento, c'est Giallo, les superbes filles, et en fait l'attrait du film c'est que elle a un corps de rêve, c'est un corps de top modèle, hein, et sauf qu'elle a tout horrible, c'est une mutation génétique après un accident nucléaire avec des yeux horribles, hein, et voilà. Et alors, en plus, ce moyen-métrage, il est assez fun, parce que moi, j'en ai vu 4 pour l'instant, et en fait, c'est d'Argento, il s'en tire parmi le mieux avec Carpenter. Le film, il y a aussi des passages gore, hein, parce que bon, la fille, elle a pas que la tête de monstre, elle a aussi un comportement un peu bestial, on va dire, puisque elle a un gros appétit. Elle va s'attaquer aux chiens, et puis elle aime beaucoup les tripes, c'est quand même un danger public, et puis on va peu à peu comprendre pourquoi le mec au début voulait la décapiter, c'était pas un clochard, c'était un homme d'affaires qui était précipité dans la déchéance au fur et à mesure, et puis au bout de l'enquête, donc voilà. Et alors c'est un moyen métrage d'une heure, hein, comme les autres de la collection, et en fait c'est une revisitation du cannibalisme, mythe du vampire un petit peu, puisque c'est si vous vous souvenez de Trouble Every Day de Claire Denis, c'est un peu la même chose, c'est là on pourrait considérer que c'est sa cousine américaine, si vous voulez, Jennifer. Et alors on a pas mal de scènes assez jouissives, par exemple il y a Argento qui, comme ça se passe aux États-Unis, il torpille un peu le code de film de teenager, t'as la boum avec plein de jeune et tout, et puis le mec, vous faites chier, j'ai pissé dans mon coin et tout, et puis il tombe sur la fille, et puis oh ouais, tiens, allez, c'est une chaudasse et tout, elle commence à se caresser devant le larve et tout, il voit pas sa tête bizarrement et tout, et puis à la fin on la découvre en train de faire une fellation à sa façon, tu vois, c'est elle gobe tout, quoi. Et donc voilà, il y a pas mal de scènes
sur la gâchette, là.
Y a pas mal de scènes hautes. Non mais Xavier, c'est pas l'alerte Spice Girl qu'il fallait, c'était l'alerte Q.
Ouais. C'est planté là.
Ouais, tu t'es planté là.
Attends, t'as dit top modèle.
Voilà, viens, allez, dis-moi ça s'il te plaît. Voilà, donc quand il fait du cul, ben voilà, on, la fille elle est pas farouche, on voit tout. Quand c'est du gore, on y va à fond aussi, c'est ça qui est sympa. Et franchement, tu prends ton pied devant ce film. C'est en plus, moi je dirais que c'est en plus, c'est le moyen aussi de radiographier le couple du flic, puisque c'est quelqu'un qui a pas fait, qui a pas baisé sa femme depuis des mois. Il va commencer à fantasmer sur la fille à tête de monstre. Puis bon, voilà, ça, on sait tous comment ça va finir. C'est rigolo. Moi, franchement, je me suis bien marré devant ce film. Il est pas mal, franchement. Voilà, donc c'est le Masters of Horror de Dario Argento, Jennifer, avec l'excellent Steven Weber. Faut savoir que les Masters of Horror ont été produits lancés par Mick Garris, qui avait réalisé l'adaptation télé de Shining, qui est plus proche du bouquin de Stephen King que ce qu'avait fait Kubrick. Et c'était déjà avec Steven Weber, qui était excellent, qui bon, il y avait.
Non,
y avait...
non, mais c'est un bon acteur en plus. Hein. Il jouait également dans une série qui s'appelait Wings dans le temps. Hein. Ouais. Il est également au rôle principal dans un film qui s'appelle Jeffrey, qui parle des homosexuels avec Michael T. Vice.
Oui, oui, Caméléon.
Et également Patrick Stewart dans le film.
D'accord. Ben, oui. Donc, Jennifer, Masters of Horror de Dario Argento et Steven Weber. Et c'est disponible en DVD.
S'il fallait une virgule, 12h55 du sport, on pousse de plus en plus. Hein. Tu vas avoir du mal à faire ton émission après, je sens.
En plus, comme j'avais pas trop de trucs cette semaine, c'était vraiment bon.
D'accord, t'as pas trop de trucs, donc
je me suis dit.
Je peux passer de suite un disque alors.
Comme tout bon. Non, mais justement, comme tout bon DJ quoi, ou MC, quoi, quand t'as rien à dire, bah, tu mets un petit peu de musique et ça va vachement mieux. Bien, alors, je t'ai passé carrément le disque. Et puis,
là, tu rêves parce que le lecteur CD, ça déconne pas mal,
tu
d'accord.
Tu as la liste avec les morceaux et dont le premier morceau que tu dois passer, quoi. T'as tout là, t'as
premier,
carrément le truc impeccable, comme ouais. Ça, t'as le temps.
Non, c'est pas impeccable, il y a ce putain de lecteur CD qui va s'en prendre une de fabrication chinoise de mes doigts. Pardon.
Ah, t'as acheté le copy
box. Tu as le temps, tu as le temps, car je commence par la revue de presse.
Ah, j'ai failli prendre celui-là.
Tu as largement le temps de caler le disque, hein, parce qu'après, t'auras plein de morceaux à passer sur le même disque, hein, donc il n'y a pas de problème. Tout d'abord, eh ben, on va parler de Satyricon qui est sorti depuis mercredi en kiosque.
Ah, je crois qu'on l'a.
c'est normal. Hein.
Oui, c'est normal. Et t'as vu qu'il y a un nouveau dessinateur dans l'équipe ?
Ah ouais.
Il y a Besseron des Requins Marteaux qui avait fait une bande dessinée sur AZF dont on avait parlé, qu'on avait déjà reçu.
D'accord.
Il y a qui c'est qui est encore ? La papa. Où c'est que je l'ai foutu ? Attends.
Alors si j'en parle, c'est parce que bon bah ça sort pas si souvent que ça, ça sort tous les deux mois.
Bah c'est tous c'est un trimestriel. C'est leur numéro 40 d'ailleurs.
Voilà, donc et c'est parce que également il y a 4 pages en plus. Mais pourquoi il y a 4 pages en plus ? Parce que ce n'est plus Satyricon, c'est Satyriton, le Satyriton. En fait, Satyricon est un journal qui est entièrement financé par la vente en kiosque. Hein, il n'y a pas de pub devant, je sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a pas de pub. Donc, c'est que la vente en kiosque. C'est-à-dire ce que vous payez le prix du numéro, 2 euros par numéro, qui sert à payer bah, ce qu'il y a dedans et comment c'est fabriqué et qui le fabrique. Et donc, bah, c'est un petit peu juste. Et à ce rythme-là, bah, ils ne vont pas tenir très très longtemps. Et c'est pour cela qu'il y a une souscription. Hein,
plus exactement, ils aimeraient salarier, enfin pas salarier, mais défrayer au moins un journaliste et ils aimeraient renouveler leur équipement. C'est toujours le même que depuis le début, ils en ont besoin.
Voilà, non, mais c'est ça, c'est leur cuisine, hein, disons que bon, ils ont besoin de sous quand même, donc il faut un petit peu les aider quand même et ça paraît un petit peu plus raisonnable que d'aider un quotidien national. Je vais pas citer lequel. Donc vous l'achetez et puis bon vous avez le truc avec le formulaire et tout, la souscription ou simplement s'abonner. Hein. Ça coûte pas cher, hein. Il y a 4 numéros par an à 2 euros le numéro. Ça fait 8 euros pour un abonnement d'un an. Le prix est imbattable. Donc tout ça c'est dans le nouveau numéro de Satyricon. Sinon, il est sorti depuis plus d'une semaine, hein, quand même, c'est le nouveau Comic Box. Qui titre Crise en série, trahison entre super amis, avec toujours les rubriques habituelles. Et là, et surtout, alors là, le flash complet, et ils l'ont mis direct, tu vois, direct après le sommaire et tout, quoi. Il est là, le voilà, avec une interview fleuve, mais alors une interview fleuve, hein, et pas seulement au sujet. Ouais, il y a 4 pages d'interview, quoi, carrément, quand tu vois le truc, hein, parce qu'Alan Moore, généralement, il est assez peu prolixe.
Général, il accorde rarement des interviews,
Et donc là, c'est au sujet de la nouvelle BD qui est sortie, qui est une BD plus,
plutôt dans la tendance érotique, on va dire. Et il y a également.
Oh, il en avait déjà fait plusieurs.
Alors il y a également comme interview, c'est Alan Moore, bien entendu, dont on parle. Hein. Bah oui, on n'a même pas cité quoi. Alan Moore, donc pas
le grand Alan Moore. Sabrina, si nous entend. Alors, Lee Watchmen.
Voilà, c'est ça. Alors il y a.
C'est perdu par avance. Hein.
Sa dernière BD s'appelle Lost Men, Lost Girl, pardon quoi. Et oui. Il y a également donc un plein feu sur toute une page sur.
Enfin, c'est pas sa dernière BD, mais c'est la BD sur laquelle il travaille le plus actuellement, effectivement. Et il y a déjà eu un ou deux tomes, je crois. Je sais plus. François Penaud. Allô.
Ouais, enfin, bon, ouais,
il a dû écouter à cause du dossier sur Chiaopan. Là, maintenant, il va appeler, il va dire.
Ça tombe mal, le téléphone est en rade. Donc,
non, mais il y a mon portable.
Ouais. C'est con pour toi. Quoi. Il y a également une page complète sur Captain Britain, dont je vous parlais à l'occasion de la sortie du Captain Britain écrit par Alan Moore. Hein. C'est une histoire plus complète qui a été créée par Chris Claremont au départ. Donc, c'est assez intéressant de savoir comment ça s'est développé. Ce qu'en a fait justement Alan Moore à son époque Captain Britain. Il y a également d'autres interviews de dessinateurs et de scénaristes, dont Mark Goodnight, qui lui a déjà scénarisé Wolverine, Blade, le Punisher, et qui est également scénariste de CSI Miami. La passerelle entre les séries et les comics aux États-Unis, hein, c'est assez commun, on va dire.
Hein. C'est depuis une quinzaine d'années, hein, d'ailleurs, qu'ils s'échangent souvent. Je crois qu'il y a le scénariste de.
Il y a Jeff Lubb également, il y en a d'autres. Hein, comme
il y a comment ça s'appelle cette série, The Vampire Slayer, le scénariste.
Joss Whedon.
Voilà, Buffy qui a pas mal collaboré d'ailleurs avec Marvel.
Voilà, c'est ça. Il y a également un entretien avec Charlie Houston et surtout, alors là c'est la deuxième grosse interview du numéro Comics Box, Carmine Infantino, qui est le créateur de Flash. Entre autres, Batgirl également, il a créé, disons, c'est un vieux de la vieille, on va dire, hein, des années 60 et tout. Donc tout ça avec les rubriques habituelles de ce numéro de Comic Box et les pages de BD inédites. Moi, elles m'ont un petit peu déplu, mais pour les amateurs de Conan, ça les ravira certainement de toute façon. 23
yes,
pages de BD inédites, tout ça dans le numéro de Comic Box.
Ah oui, alors moi j'ai par contre un petit bémol concernant Comic Box, c'est que c'est du très bon travail et les interviews sont vraiment du haut niveau quand tu connais et quand tu es vraiment connaisseur et très très connaisseur. Voilà. Par contre, dans mon cas, quand t'es un peu amateur, fan, mais pas trop, ils font beaucoup référence à quand ils interviewent des auteurs, tiens, vous êtes passé à telle maison d'édition et tout,
ah oui,
vous
avez réagi. C'est assez agaçant pour ça.
C'est très agaçant et je trouve que les interviews ne sont pas assez orientées sur la production et l'œil, si tu veux, la manière de faire. Et
Le problème de la bande dessinée américaine, c'est que de toute façon, la production d'un dessinateur varie énormément en fonction des éditeurs, en fonction des collections où il est. Donc forcément, pour l'allumer du comics qui suit bien, oui, ok, il n'y a pas de souci, etc. Pour les autres, c'est vrai, ça mériterait des explications. Je sais que dans cette émission, on manque souvent d'explications, mais alors eux, c'est vraiment pointu.
C'est vraiment du pointu.
Ouais, c'est assez pointu quand même. Hein. Mais enfin bon, ça se lit quand même. Hein.
Par contre, il y a des dossiers qui sont sympas quand même quand ils font les rétrospectives sur des héros.
Rétrospectives
Superman, j'avais trouvé ça vraiment très instructif. Comment Superman
des super-héros et des différents petits trucs, les sujets de fond en fait. Hein, c'est ce que j'appelle les rubriques habituelles maintenant, quoi. Dans Comic Box, quoi. Ok. Alors là, maintenant, tu peux me lancer la musique, tu vois, quoi.
Ah oui.
Je viens de recevoir un texto Sabrina qui me dit que non, elle ne lira pas Watchmen.
D'accord.
C'est pas bien.
Ça va être la guerre des textos. Là, on en est à 4 depuis le début de l'émission.
Alors le générique, vous l'avez reconnu, je pense quand même.
Oui, hein. C'est New York unité spéciale, non?
New York District.
District. Oui.
Voilà. Alors ça c'est le générique. Tu peux baisser un peu la musique quand même.
Pardon, excuse-moi.
En fond, tu me la mets en fond, voilà. Alors ça, c'est le générique original de la série Law, de la série Law and Order, New York District en français. Hein, et ce générique, en fait, a été décliné par Mike Post pour les séries dérivées. C'est-à-dire que c'est le même thème, c'est la même mélodie, Mike mais Post, les arrangements sont complètement différents.
Mike Post, c'est le mec qui est derrière le générique de Flic à Miami.
Non, pas du tout. Hein, non, c'est bien la mère. Ben, on y reviendra après, justement. J'ai décidé de vous faire un petit rétrospectif musical de Mike Post, qui est quand même un des grands mecs qui fait les génériques de série. Mais si je vous ai passé le Law & Order, c'est parce que vendredi prochain sur 13e rue, eh bien c'est une soirée complète Law & Order qui vous est proposée à l'occasion de la diffusion de la saison 16. 16 ans, 16 saisons déjà de Law & Order, c'est-à-dire la série originale. Et d'ailleurs, s'ils en réussissent tour de force, faut se rappeler que dans la saison 15, c'est l'arrivée de Dennis Farina, hein, dans l'équipe, hein, on sait que ça fait pas un an, hein, de toute façon, quoi, qu'ils ont diffusé ça. Donc, ils ont fait très très fort pour ce coup-là, hein. C'est pratiquement, je crois que la diffusion de cette saison aux États-Unis n'est pas encore achevée et eux, ils sont déjà en train de commencer à diffuser la même saison en France. Donc, c'est quand même pas mal.
Ça suit bien.
Alors, Law & Order, ils nous proposent bien entendu 3 épisodes de la saison 16. Le premier, l'arrangement. Le deuxième, la manipulatrice, qui est un crossover avec New York Unité Spéciale. Donc, avec l'apparition dans cet épisode en compagnie de Dennis Farina, Sam Waterston et toute la bande, de Mariska Hargitay qui joue le rôle de l'inspecteur Benson aux côtés de Chris Meloni, et également de Ice-T, donc, qu'on verra aux côtés de Dennis Farina, ouais, dans l'épisode qui s'appelle La Manipulatrice, suivi d'un troisième épisode qui s'appelle Le Fantôme de Sarah Dolan. Et à 23h15, alors là, c'est quand même assez exceptionnel, quand même, il faut souligner, c'est un Actors Studio spécial New York District de Law & Order, avec bien entendu comme présentateur
c'est
James Lipton.
C'est Paris Première d'habitude qui passe les Acteurs Studio. Là, c'est, là TF1 va en passer un.
Non, c'est 13e rue.
Hein, 13e rue. Ah d'accord. Ouais, okay.
Parce que c'est un spécial, c'est un spécial Law & Order. Donc c'est en l'honneur d'une série. C'est très très rare, hein, ouais, que James Lipton invite comme ça, que ce soit un acteur qui se soit fait connaître dans une série avant de passer sur grand écran, c'est très 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 rare. Et là, il y aura Dick Wolf, bien sûr, hein, le créateur de la série, des séries, hein, on va dire, et à Chris Knott, Chris Meloni et Sophia Epata Merkesson. Donc du beau monde, hein, de toute façon, pour cet Actor Studio qui sera diffusé vendredi prochain sur 13e rue à partir de 23h15, après les 3 épisodes donc de cette saison 16. Dans cette saison 16 d'ailleurs, comme guest star, ça va être pas mal comme d'habitude. De toute façon, ils en font pas trop, hein, au niveau des guest stars, mais généralement ce sont quand même des acteurs ou des actrices qui sont confirmés, qui savent faire leur boulot. Hein. Alors il y aura Kathleen Turner, Estella Warren et Linda Carter, Wonder Woman, la seule et l'unique. Et bien entendu, la musique, donc la musique du générique, elle est signée de Mike Post. Mais Mike Post, ben, je vous propose une petite rétrospective, mais pas chronologique.
Faut que tu me donnes l'ordre des pistes, hein, par contre.
Ah ben non, mais là tu commences par le 1, ensuite tu mets le 5, tranquille. Okay, et on va essayer de deviner là, comme ça, là, vite fait là.
Un petit quiz
là, vite fait là. Tu
vois. D'accord. Okay.
Allez, le 1. C'est parti. Bon. We are
poor. Les têtes brûlées.
Ah, bien chante, bien joué, bien joué.
Thomas, un point.
Dans le titre original, d'ailleurs on le voit dans le générique, hein, parce que bon, bah, ils ont mis les têtes brûlées
en VF,
en surimpression, quoi. C'est Baba Black Sheep, hein, une série qui a été diffusée en 76, hein, pour la première diffusion aux États-Unis. Et au départ, il faut savoir que Mike Post travaillait avec Peter Carpenter. Donc il travaillait toujours en duo, mais Peter Carpenter est mort dans les années 80, et donc c'est pour ça que Mike Post a dû continuer tout seul, tout D'accord. simplement. Donc Baba Black Sheep, allez, on peut passer au numéro 5 là, qui est aussi assez connu, de toute façon.
Ah, c'est NYPD Blue. Captain Furio.
Voilà, ça y ressemble, hein, quand même. Hein, y a...
Oh punaise.
Diffusé en 81 aux États-Unis, en 84 en France, hein, c'était sur Canal, puis ensuite c'est passé sur la 5, à l'époque de la 5, Jean-Claude Bourret, ils sont là.
Allez, vite fait. Attends, c'était même avant qu'il arrive sur la 5.
Vite fait, le 11. Allez,
Oui, Magnum.
Ah, oui. Facile, facile, facile.
Je te conseille le point.
Allez, on zappe tout de suite au 19. Tu vois, là quand même.
Ça ressemble à du deux flics à Miami, mais c'est pas ça.
Ah non.
C'est pas les secrets de
Paris. En 92. La série policière qui a révolutionné la série policière.
Ah punaise, non.
12 saisons. Alors je vous dis Denis France.
Ah oui, bah oui, New York Police Blues.
Voilà. Putain,
merde. NYPD Blue. Allez, le 25. Alors là, c'est une plus ancienne, hein, car elle a commencé à être diffusée aux États-Unis.
L'homme qui va détruire.
Ah oui, agent au risque.
Écoute, by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.
Avec ses plans de dessous les voitures, avec les pneus qui...
Ouais.
J'ai un message de Sabrina, vive Chiaopan, au fait, retour de John Doe à la télé.
Jane Doe.
Ça va être un concours de SMS cette émission.
Il y a également Peter composé celui-là avec Peter Carpenter. On passe le 28 maintenant.
J'ai cru comprendre Joe Carpenter, j'ai eu peur.
Non, Peter Carpenter, toujours.
Ah, Moonlight, non.
Oui,
Code Quantum.
Oh punaise.
Non. Elle est moins connue parce qu'elle n'a jamais été diffusée sur une chaîne hertienne. Ou très récemment peut-être, quoi, mais enfin bon, dans un bordel plus complet. C'est La Loi de Los Angeles.
Ah oui, mais c'était sur, c'était sur la 5 avant.
Ah oui, tout à fait, oui. Je confirme.
Ouais. Ça fait longtemps, hein, je m'en souviens plus.
Et on va se terminer avec une dernière. Alors je vous passe pas Starsky and Hutch parce que c'est la version américaine que j'ai. Donc
Busted, elle est géniale.
Mais
a été reprise par énormément de gens en plus.
Mais Busted. Celle-là, elle est pas mal aussi. Hein, la 31, la dernière du lot.
Rick Hunter.
Oh punaise, la mouboute, si j'aurais dû m'en douter.
Avec le flingue au début.
Ouais, pompé sur Manix.
Oui. Avec un Fred Ryder excellent.
Tout ça donc Mike Post.
Et tu peux me le prêter le CD après?
Ouais, si tu veux.
S'il vous plaît.
Ben, c'est un lot, hein. C'est par décennie. Ok, parlons un peu de télé à présent, vite fait, là, quand même, après cette rétrospective un petit peu des musiques de générique créées par le grandissime et génial Mike Post. Une série inédite, néanmoins, à l'affiche cette semaine à la télé, c'est sur Paris Première qui exploite le filon britannique avec... une série qui s'appelle Hôtel Babylone, adaptée d'un best-seller qui a très très bien marché. C'est un petit peu l'équivalent, on va dire, de Fawlty Towers, mais dans le monde de l'hôtel de luxe, quoi. Tu vois, c'est-à-dire une directrice Tamsy Doudwaite, des réceptionnistes, des femmes de chambre qui magouillent dans tous les coins et qui essayent de faire que l'hôtel marche plus ou moins bien.
Un peu comme Palace, quoi.
Voilà, c'est ça, quoi. Bon, enfin, en moins déjanté, en moins non-sensible, quand même. Hein. C'est encore, ça redevient du britannique un peu délirant, comme on l'aime bien. Avec donc Tamsin Newtwaite, avec Max Bisley et Emma Pearson. C'est proposé sur Paris Première à partir de lundi 20h50. Avec deux épisodes. Le premier, Nuit d'ivresse, l'histoire de l'hôtel qui est investi par un groupe de rock. Donc, on voit ce que ça peut donner à peu près. Hein. Et le deuxième, Ne vous fiez pas aux apparences. Avec comme guest star Anthony Stewart Head. Giles, bien entendu. Sinon, My Name is Earl, toujours aussi bon, toujours aussi excellent. Alors déjà, ce soir,
ça va faire
première.
Un gimmick, ça. Il va falloir faire un gimmick.
Ah ouais, ouais, si, si. À 19h50, rediff des épisodes de dimanche dernier, c'est-à-dire le roi du golf ou comme la bonne résolution qu'il a prise dans cet épisode. Donc, c'est de réparer son péché. En fait, il s'est rendu compte, il arrive à tricher, à rentrer dans un country club de golf et à se faire payer un coup à boire par un mec qui arrive au bar qui dit super, j'ai réussi un coup en un. Et du coup, il se dit ok, si c'est pour boire un coup à l'œil et tout, il n'y a pas de problème, je vais venir chaque fois qu'il vient et je vais l'aider à faire un trou en un. Et puis donc avec son frère, ils y vont et puis hop, chaque semaine, il débarque. Le mec est tout trou en un, tranquille et tout quoi. Et sauf qu'il se rend pas du tout compte quoi, c'est que le mec et tout quoi, c'est que il est comptable dans la vie mais il veut passer golfeur professionnel. Et en le faisant tricher, en trichant quoi, si tu veux quoi, ils lui ont fait croire à de faux espoirs et tout, et le mec a tout perdu, donc se retrouve à la rue et tout tranquille. Et donc il décide de tout racheter, lui retrouver son travail, lui faire retrouver son boulot et tout, tout ça en un épisode de 25 minutes. Enfin, c'est pas mal, c'est très très grand hein, c'est magnifique et j'apprécie de plus en plus. Bon, déjà le jeu de Jason Lee est impeccable quoi, mais alors celui qui joue le rôle de son frère, genre demeuré quoi, alors bon, c'est le gimmick hein, dans la série. Et dans chaque épisode, quoi, c'est quand les gens ont du mal à comprendre ce que le frangin dit ou ce qu'il est en train de sortir comme réplique, il y a Jason Lee qui sort, enfin Earl quoi, Earl Ike qui sort. Ouais, il est juste un peu lent, quoi. Mais enfin bon, le mec, il est pas si lent que ça, en fait, tu te rends compte, quoi. Tout ça donc dans My Name Is Earl. Le deuxième, Tous mes vœux de bonheur. Là, c'est l'histoire du mariage de son ex et tout. Enfin bon, mariage qui fait capoter. Enfin bon, c'est le bordel. C'est impeccable, c'est carrément impeccable de toute façon. Et demain, les épisodes inédits à 19h55 sur Paris Première. My Name Is Earl. Voter pour mon père. Et le deuxième, Joyeux Noël. Bah ouais, ça risque d'être pas mal du tout. Sinon, ce soir, moi, je serai devant ma télé et devant ce magnifique soap hollandais.
Donc, oh non.
Secret d'héritage. Ah si si, je me suis tapé les premiers, je te jure, c'est assez remarquable quand même. Un soap qui a pour toile de fond une laiterie quoi, tu vois, qui est en proie aux difficultés financières. Le père, dans le premier épisode, il essaye de ramener du fric et tout parce que sinon bah sa laiterie il va devoir la céder, sa laiterie qui vient de son père et tout, et donc il faut qu'ils réunissent les signatures des trois filles, mais les trois filles, bah, elles sont parties chacun de leur côté. Il y en a qu'une qui est restée à la maison. Et les deux autres, elles sont parties. L'une est femme d'affaires, l'autre est artiste un petit peu bohème, actrice un petit peu bohème, on va dire. Et bah, la mort du père bah, va faire que ces trois filles vont devoir se réunir pour essayer de racheter la laiterie. Et ça démarre. Alors le générique est excellent. Mais ça démarre la première scène et tout quoi, c'est un accident de travail dans la laiterie et tout, il y a un mec qui se fait asperger de lait et tout, c'est carrément grandiose, c'est génial. Ça passe sur Canal Jimmy ce soir donc à partir de 20h45, Secret d'héritage hein, c'est un soap hollandais, 12 épisodes dans la première saison. Là on va s'en taper 3 à la suite. Mort suspecte, ah putain, deuxième mort, excellent, ça va très bon. Manipulation et à l'heure japonaise où on apprend que des japonais investisseurs seraient intéressés par la laiterie. Ah ah, qu'est-ce que ça va donner tout ça ce soir dans Secret d'héritage sur Canal Jimmy à partir de 20h45. Sinon ce soir il y a également Ultimo hein, donc une série italienne basée sur les exploits d'un capitaine de police italien et de toute son équipe. Le capitaine c'est Ultimo, interprété par le beau et ténébreux Raoul Bova. Ah ouais ouais ouais, il y a également Ricky Memphis. La semaine dernière ils essayaient de carrément démanteler toute une branche de la mafia avec carrément de, tu vois, le premier épisode et tout, ils arrivent à niquer le parrain et tout, un des gros mecs et tout, mais carrément ils vont en Sicile dans le deuxième épisode hein, parce que chaque fois c'est en deux parties, deux téléfilms on va dire. Celui-là bah, s'appelle Le Défi 1 et Le Défi 2. Le Défi 1 à 20h50 et Le Défi 2 à 22h50, c'est sur 13ème rue ce soir. Sinon j'ai complètement laissé pisser cette excellente mini-série qui a quand même coûté la bagatelle de 60 millions de dollars à HBO pour la production.
Rome.
Qui a non 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 mieux encore. Qui a récolté la bagatelle de 11 Emmy Awards. Mais
Elisabeth.
Mais vu le sujet sensible, non, c'est une mini-série un peu plus ancienne de Tony Kushner qui s'appelle Angels in America.
Ah oui.
Qui avait été déjà télédiffusée sur Canal, qui repasse en ce moment sur France 3. Alors bon, 11 Emmy Awards quand même, la présence de Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson, Marie-Louise Parker, etc., etc., etc. C'est-à-dire casting au luxe pour raconter les destins croisés de 7 personnages qui ont affaire avec le sida, soit bah, de manière physique, soit par le biais de proches. Tout ça dans cette mini-série donc qui a quand même obtenu une mini-série en 6 épisodes. Hein. Elisabeth, ça fait que 2 parties. Et là, France 2... France 3, pardon, on vous diffuse vendredi prochain bah, le 5e et le 6e. Mais par contre, Pink TV, à partir de vendredi prochain, à 20h50, vous diffuse la même mini-série en version originale à raison d'un épisode par semaine. Donc Angels in America, vendredi prochain, soit sur France 3, donc très tard le soir, 23h25, les deux dernières parties. Ou alors, si vous connaissez pas du tout, vous commencez par le début sur Pink TV. Ouais, mais là, il faut s'abonner. Bon, bah d'accord, bah y a pas le choix, hein, de toute façon. Vendredi prochain à partir de 20h50. On termine vite fait avec la semaine sur Sci-Fi.
Oui, alors
on n'a pas de jingle
pour Sci-Fi Attends, je sais pas.
Pas du Star Trek.
Non, mais tant pis. J'ai rien de réel, mais refais l'annonce pour voir.
La semaine sur Sci-Fi. Ouais, bon.
Bon, d'accord.
On repasse. Va falloir s'entraîner. Avec ce soir un film de déconne, mais c'est quand même sur Sci-Fi. C'est un film qui s'appelle Restez branchés. Alors, l'horaire est le même pour tous les trucs de la semaine, 20h50. Restez branchés, un film de Peter Yams de 92 avec le regretté John Ritter, où l'histoire de la télé qui carrément mange les téléspectateurs. Hein, tu vois, c'est fantastique, mais c'est du rigolo. Bah, c'est normal, il y a John Ritter dedans.
Bah, ça a déjà été fait, c'était très rigolo aussi.
À signaler qu'il y a également.
Vidéodrome.
Oui, Vidéodrome, ouais. Ouais, là c'est en déconne, tu vois, version déconne.
Mais c'était déconne, Vidéodrome, c'était rigolo.
Ouais. Nouvelle chair, tout ça, ouais.
Moins rigolo quand même sur Sci-Fi ce soir à 23h50, mais néanmoins très très intéressant. Excellente série, Regenesis, donc la rediff des épisodes qui sont diffusés en première partie de soirée le lundi. Dimanche, demain soir à 20h50, 2267, l'ultime croisade, la saison 1, il y a 2 épisodes. Complot d'outre-tombe et les règles du jeu avec Gary Cole, avec Tracy Scoggins. Lundi donc justement, Regenesis en prime time, mais c'est la saison 1 à signaler. Hein. La saison 2 est diffusée comme ça de temps en temps quand t'arrives à choper le dimanche soir sur 13ème rue. Mais enfin bon, vraiment l'horaire est alternatif on va dire. Hein. Regenesis donc à 20h50, saison 1 avec 2 épisodes, Dernier Espoir et Bactéries Terroristes. Mardi à 20h50, un truc un peu trash qui s'appelle La Maison Sanglante de Graham Campbell de 98 avec Lisa Jacob, Timothy Busfield et Jennifer Dale, gens qui emménagent dans une maison où tout est automatisé, nickel, super et tout, puis alors ils commencent à avoir des problèmes. Schlack, oh merde, une main qui est coupée. Oh, ça, ma main, c'est parti, le doigt.
Fallait pas foutre Windows.
Mais non. Mercredi prochain, un grand classique du film fantastique à 20h50, La Guerre des Mondes, l'original de Byron Haskins de 53 avec Jane Barry.
Ah, la version couleur, parce qu'il y a eu une version noir et blanc avant.
Avec Jane Barry, mais ça c'est la version. La version.
Le premier film de SF.
Oublie
tourné.
Les versions d'avant.
Le premier film de SF tourné en Technicolor.
Ouais, d'après H.G. Wells, donc avec Jane Barry.
Ouais, un
des familiers de l'inspecteur Colombo par la suite. Et également Anne Robinson, donc ça c'est mercredi prochain.
Et le final inoubliable, si Dieu a créé les microbes, ce n'est pas pour punir l'humanité, mais pour la protéger. Je te jure, t'as ce final là, tu dis oh putain, oh là les scientifiques,
Jeudi prochain, toujours sur Sci-Fi à 20h50, Bone Snatcher, moins 12 de Jason Wolzun de 2003 avec Scott Berstow, Rachel Selley et Warwick Greer. Hein, ça se passe dans le désert de Namibie où il y a des prospecteurs qui sont perdus et donc il y a une équipe qui part à sa recherche. Aïe. Et vendredi prochain, on termine dans la beauté, dans l'allégresse et dans la bonne humeur à 20h50. La version cinéma qui a inspiré la série, mais enfin là, bon, on peut pas dire que c'est parce que le film a été une réussite du tout, hein. C'est Buffy, tueuse de vampires.
Non,
film de Frank Kuzui de 92.
C'est même pas un film, c'est un téléfilm, c'est une merde.
Ah, mais c'est vachement bien.
C'est un chier. C'est même pas drôle.
Avec Christy Swanson, mais il y a des apparitions sympas, il y a Donald Sutherland, Luc Perry, te rends pas compte.
Et, avec du lait qui coule du nez. Ouais.
Et la petite apparition de Hilary Swank. pour tous les fans, bien entendu. Et surtout, c'est diffusé sur Syfy, donc vous avez le choix entre la version anglaise originale ou la version française. Mais choisissez la version française, parce qu'ils disent pas Buffy, ils disent Choupette. C'est ça qui est vachement bien. C'est ça qui est vachement bien. C'est pour ça, quoi, que ça vaut le coup. Allons, vous avez bien compris. C'est vendredi prochain à partir de 20h50. Voilà. Et je terminerai avec cette pensée, cette maxime inénarrable qui sera la pensée de la semaine, qui nous vient du maître du monde, le concombre masqué. On ne rattrape pas un robinet qui fuit.
Et gaffe, j'aurais peut-être un album à faire gagner la semaine prochaine du concombre masqué. C'était le supplément week-end numéro 93 sur Radio FMR pour les 25 ans de la radio. Nous sommes donc le 25 novembre, il est 13h24 et d'ici, oubla, aussi petit, aussi, enfin aussi vite que possible, du sport va passer de l'autre côté. Mais si vous avez manqué le début, sachez quand même qu'on a fait fort. Thomas, peux-tu nous faire nos résumés de l'émission pour ceux qui sont arrivés à la bourre ?
Oui, aujourd'hui il y a eu beaucoup de choses. On a eu une spéciale BD chinoise avec une interview de Patrick Abri des éditions Chaopan. On a eu un lecteur CD en rad, une alerte Spice Girls, l'international chanté par du Chinese Hard Rock. Xavier qui a voulu se la péter fessé en direct sur la zig de Miami Vice et une absence de jingle sci-fi qu'il va falloir remédier.
On avait dit pas de pub pour les chaînes. Bon, enfin, surtout qu'elles sont payantes, quoi. Elles ont qu'à nous les offrir, les abonnements.
Bon, il faut un jingle SF en tout cas.
Un jingle SF. Oh, ça doit se trouver là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à partir de midi, le samedi. Néanmoins, moi, je serai disponible en semaine. C'est-à-dire, vous risquez de me retrouver notamment pendant les journées spéciales intégrales sur Radio FMR qui ont lieu en extérieur. Puisque, notamment, attention, qu'est-ce qui se passe pour les 25 ans ? Eh ben, ce soir, il y aura la soirée HXE avec le massacre du client Abused Sold et une surprise, c'est au bar Le Dollar. Il y aura la soirée Drum and Breakcore, SKSPIO, Nurgle Detro, GBK, Fuel Insect, Defray, Broken Toys au Marin d'eau douce. Lundi, un concert pour les majeurs et vaccinés, Jean-Louis Coste, XOR, Gwyn & Bee, Le Ramier, 21h, 7€, et il faut prévoir, à mon avis, l'impair. Franchement, sérieusement, c'est conseillé. Mardi, journée plateau, radio. Expo et concert Peter Panties de midi à 18h au Musicophage, et je risque d'y être. Concert hip-hop avec le Bikini, Stereotypes, Tacit et Oxmo Puccino, et c'est au Vent du Sud, ça vaut le coup en plus. Mercredi, journée radio avec les invités, les requins marteaux, ah bah à mon avis, je risque d'y être. C'est au Musicophage de midi à 22h, non je vais pas être aussi loin longtemps, c'est pas possible. Jeudi 30, Sacco et Vanzetti, Banqueter, Rockabilly, DJ Sets au Voltigeur à partir de 15h. Soirée FMR, Electro Friends et Plusy Affinité avec Opéra, Starlight Boys, Hypnolove, Lassie, DJ J-Error, Exocent et DJ Tro. Et quand c'est trop, c'est Tropico, oui, bien sûr. C'est au Cléo à 21h, c'est jeudi, concert aussi Toulouse Punker avec Ondoa, Névrotic Explosion, Charlie Fiasco, Open Night Maro, au Vent du Sud. Ah bon, ça existe encore, le punk. Et vendredi 1er décembre, soirée FMR, Super Héros d'hiver et d'aujourd'hui avec Cosmo Giraffe, Christian Morin, All Star, c'est DJ, Mac Massoud, Docteur Disco, Pacha, c'est au cri de la mouette. Et pourquoi t'es toujours là du sport? C'est de l'autre côté que tu es censé être là.
Ah ouais, non mais je crois que je sais pas si on fait une émission la semaine prochaine en plus, parce que je crois qu'il y a un truc un peu spécial, il me semble, hein, la semaine prochaine.
La semaine prochaine on m'a pas dit que c'était en extérieur, on m'a dit que c'était là, mais néanmoins si c'est en extérieur on le fait dehors, ça c'est pas un souci.
Ah bon, bon on verra. Enfin bon, on sait pas.
Du sport de suite. À 15h, Zarma Farai. Ciao, see you soon. Rendez-vous la semaine prochaine.
Bonne semaine.